Alors on vient de voir beaucoup de choses qui sont tristes et en fin de compte, ce qu'on peut remarquer, c'est que bah, c'est le monde actuellement, c'est le monde qui est fait comme cela. Et je ne sais pas si les grands sortent. Enfin bref. Donc c'est le monde qui est comme ça et est-ce qu'on a conscience de la grâce de Dieu? Est-ce qu'on a vraiment conscience que l'amour de Dieu est avec nous et que cet amour peut aller très loin? Alors, il y a quelque temps, j'avais parlé de l'enfant prodigue et en fin de compte, je m'étais arrêté sur le Père. Sur le Père qui était une magnifique représentation de Dieu et de sa grâce. Alors, ce coup-ci, je vous avais dit à la fin que je vous ferai certainement un jour le Fils, parce qu'il y a tellement de choses à tirer de l'enseignement du Fils. Alors, bien sûr, ça se trouve en Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Apportez-moi vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, Ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et que ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est un récit magnifique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un récit magnifique. Et on sent la chaleur, on sent vraiment tout l'amour du Père dans ce récit. Et en fin de compte, ce récit est le troisième. Vous prenez le chapitre 15, il y a trois trois histoires, on va dire entre guillemets, que Jésus donne. Il y a la brebis perdue, il y a les drachmes, et ici, il y a le fils prodigue. Dans les deux premiers, au verset 4, vous allez trouver une question. Lequel d'entre vous, donc il commence par une question, au verset 8, pour le drachme, il dit, quelle est la femme? Et dans cette partie, il n'y a aucune question. Aucune question. Pourquoi? Parce que il est impossible d'approcher ou de mesurer la grâce du Père. C'est impossible, tellement elle est grande. Et Jésus va le démontrer. Alors bien sûr, le fils aîné, c'est celui qui hérite de tout en fin de compte. Et c'est un peu celui qui travaille en dehors de la grâce. Il est près du Père, mais tout ce qui concerne le Père ne le touche pas, parce que lui, il travaille en fin de compte à l'héritage qu'il va avoir. Et il s'en fiche de l'amour du Père, parce que pour lui, il sait que tout ce qu'il aura est dévolu. C'est un peu, Jésus est en train de parler ici, bien sûr, aux pharisiens et aux scribes. C'est un peu l'image que donnaient les pharisiens et les scribes. Ils pensaient que tout leur était dû parce qu'ils étaient docteurs de la loi et qu'ils touchaient tous aux paroles saintes. Et ils n'étaient pas touchés absolument par l'écriture. C'est comme quelqu'un qui prend sa Bible le dimanche et qui lit, et parce qu'il prend sa Bible le dimanche, il pense être chrétien. C'est exactement ce que Jésus est en train d'expliquer. Le fils cadet, c'est celui qui, malheureusement, ne touchera rien. Lui, il n'a pas le droit d'aînesse. Et c'est un peu l'image de nous qui pouvons nous éloigner de Dieu. Alors, il faut savoir que Jésus vraiment donne un point d'honneur à donner de l'importance au Père, l'importance dans la vie de chacun de Dieu, puisqu'il répète le mot Père 12 fois dans cette partie. 12 fois, il est répété le mot Père. Alors, qu'est-ce qui arrive au départ? Vous avez un fils qui a entendu les 12 voix du monde et qui se dit, mais après tout, moi j'ai autre chose à faire que vivre au quotidien avec le Père, et moi j'ai envie de vivre ma vie. Il dit au Père, ben donne-moi de ma part. Il est attiré, tellement attiré, et on peut voir en Marc 4, 18, 19. Donc Marc 4. La douze voix. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc vous voyez, ça, c'est ce qui est arrivé dans le fils cadet. Lui, il avait entendu la douze voix du monde qui l'appelait à se livrer à toutes sortes de choses. Et il a pris la décision vraiment de s'en aller du bénéfice de la grâce de son Père, et je vais dire quelque part de la protection. Et en 1 Jean 2, 15, vous allez voir que Jean est beaucoup plus pointu. Et là, il nous donne un conseil. Conseil qu'aurait dû suivre le Fils. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Si vous vous rappelez les paroles de l'Ecclésiaste, quand il dit vanité des vanités, tout n'est que vanité, poursuite du vent, c'est exactement ce qu'aurait dû penser ce fils. En fait, quand il s'en allait vers des choses vraiment catastrophiques. Et ce qui est incroyable là-dedans, c'est que le Père, en sachant là où il allait, s'exécute. Et le Père leur partagea son bien. Le Père le fait. Il le fait parce qu'il a tellement d'amour pour son fils qu'il le fait. Et qu'est-ce qui arrive, bien sûr, peu de temps après, Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ses affaires et il s'en va. Il oublie complètement l'amour de son père. Il oublie complètement tout ce que son père lui a partagé, toutes ces choses que son père lui a partagées. Il fait table rase et il s'en va. Vous imaginez la décision? Et qu'est-ce qui lui arrive? Bien sûr, il s'en va dans un pays éloigné. J'aime bien ce terme, dans un pays éloigné. C'est vraiment l'image du... À partir du moment où on choisit d'être indépendant de Dieu, on s'éloigne. Et ce terme est vraiment approprié, dans un pays éloigné. On est complètement loin, et vous allez voir dans le récit, que le fils s'est mis loin de la grâce et de l'amour de Dieu. Mais complètement. Donc il se retrouve dans un pays éloigné, il vit dans la débauche. C'est les conséquences de ceux qui vivent dans le monde. Les conséquences. Lundi, nous sommes allés chez Pierre et Xavierine et on a discuté sur quelque chose qui est terrible actuellement. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi, qui est terrible chez nos jeunes chrétiens, pas chrétiens, c'est l'effet de groupe. L'effet de groupe dans ce monde actuel, c'est terrible. Alors, ce n'est pas à Paul que je vais vous demander d'expliquer l'histoire de la meute, comment se comporte une meute. La meute est en fin de compte obligée de suivre le chef. Elle va suivre le chef. Quoi qu'il fasse, elle va le suivre. Vous avez le chef de meute, il va avoir un ravin, il va sauter. Toute la meute complète va sauter parce que c'est le chef. Et pour éviter d'être exclus de cette meute, ils vont faire exactement ce que le chef fait. Et on a nos jeunes... Ils vivent exactement de la même façon. J'ai été mis devant des situations, et j'ai vu des situations où des gens dont les parents étaient malheureux, absolument respectables. Des gens, mais d'une gentillesse, ils étaient bons naturellement. Et vous aviez les enfants, notamment trois, sous l'effet de groupes, ont mis le feu à un château. Ça leur a coûté 3 millions d'euros. 3 millions d'euros de dégâts. Vous imaginez? Alors que si vous aviez pris ces enfants qui étaient âgés entre 12 et 14 ans, c'était des agneaux. Ils étaient d'une gentillesse. Et ils ont mis le feu à un château, ça leur a coûté 3 millions d'euros. Est-ce que vous ne savez pas? Et que vous dites, ouais, ben bon, il y a des assurances. Ce que vous ne savez pas, c'est que, étant donné que c'est un acte criminel, l'assurance ne fonctionne pas. Donc c'est une dette que ses parents, les trois familles, vont partager à vie. C'est une dette qui est transmissible. C'est-à-dire que même quand les parents vont être décédés, la dette, elle va être transmissible. Ce qui fait que les enfants, eux-mêmes, vont payer, ceux qui ont mis le feu vont payer, mais leurs enfants vont payer également, parce que 3 millions d'euros, c'est énorme, énorme. Donc vous voyez que ce jeune qu'on voit dans cette parabole du fils perdu, c'est exactement la même chose. Je suis persuadé qu'il a entendu un jour que la ville était bien, on pouvait y faire ce qu'on voulait, et je vais retrouver des copains, je vais me faire des amis. C'est ce qui est arrivé. On voit, il ne dissipe pas son bien en vivant dans la débauche. C'est vraiment cet acte où même les familles de chrétiens ne sont absolument pas protégées. Ne sont absolument pas protégées. On a beau éduquer les enfants comme on veut, tant qu'ils ne sont pas à Christ, ils peuvent s'en aller, ils peuvent faire les pires choses. Ne dites jamais, si vous entendez un couple de chrétiens dont le fils est tombé dans la drogue, est tombé dans l'alcool, est tombé dans ce que vous voulez, ne dites jamais, mais je ne comprends pas, pourtant ses parents sont chrétiens, il ne faut jamais dire ça. Parce que tant que ces enfants ne sont pas à Christ, il va arriver ces choses-là. Pourquoi ? Parce que si on lit la suite, si on lit la suite, et Jésus l'explique bien, il a fallu que ce jeune ait une profonde repentance. Il fallait vraiment qu'il ait cette profonde repentance. Alors, vous pouvez dire, mais je ne comprends pas pourquoi on arrive à ces choses-là. Il est arrivé, il a fait ce qu'il a voulu, il a tout mangé l'argent. Il s'est retrouvé, bien sûr, est arrivé la famine. La famine, bien sûr, c'est la famine spirituelle. C'est le fait de ne plus être au bénéfice de la grâce du Père. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui lui demanda, bien sûr, de garder ses pourceaux. Et bien sûr, là, c'est pas la peine de vous dire que ça représente exactement le diable. À partir du moment où on décide de se mettre à l'écart de la grâce de Dieu, on se met sous service du diable. Et regardez en Romains, chapitre 1, verset 24, 25, vous allez voir, la parole nous explique tout, très bien. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. On laisse parler nos convoitises et automatiquement, on sert la créature au lieu du Créateur. C'est-à-dire qu'on suit le monde. On n'est plus sous le bénéfice de la grâce. Ce jeune ici, c'est ce qui s'est passé. N'étant plus sous la protection, n'étant plus sous la grâce du Père, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il était obligé de se mettre au service de quelqu'un, au service du monde. Et ça a été terrible pour lui. Parce qu'il lui a demandé, lui qui était ce jeune, on va le voir vers la fin, lui qui était ce jeune qui était d'une grande lignée, qui était riche, qui avait des beaux habits, qui avait un anneau magnifique au doigt, il s'est retrouvé au milieu des cochons. Au milieu des cochons. Est-ce que c'est ce qui attend celui qui se détourne de la parole de Dieu et de Dieu lui-même? On se retrouve dans des situations pas possibles. Pas possible. Donc il s'est mis au service d'une personne. Il se retrouve à vraiment dans une situation incroyable, à demander à nourrir les cochons. Et il avait tellement faim qu'il était prêt à manger ce que les cochons mangeaient. Vous savez que en ce temps-là, pour les Juifs, c'était impur, un cochon. Et l'image est frappante parce que lui se retrouve au milieu des cochons, à demander, à manger ce que les cochons mangeaient. Ça veut dire qu'il allait au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Il était tombé au plus bas dans sa vie. Et c'est incroyable parce que vous vous reculez dans n'importe quelle situation. Vous voyez une situation que vous connaissez, vous vous reculez et vous regardez ce qui a provoqué cette situation. Et à chaque fois, c'est la désobéissance. La désobéissance. Ce jeune a désobéi à son père. Il a trouvé que le monde était mieux que l'enseignement de son père. Il a demandé. Il voulait des carouges, mais personne ne lui en donnait. Et il lui est arrivé une chose magnifique. Étant entré en lui-même. Bien sûr, il ne faut pas en être à ce point-là. Je ne vous dis pas qu'il faut en arriver à ce point-là pour vraiment se tourner vers le Seigneur. Avoir cette repentance. Le Seigneur ne demande pas ces choses-là. Ici, c'était un exemple frappant que Jésus voulait donner à ceux qui étaient autour, aux pharisiens, aux scribes. à ses disciples. Mais bien sûr, tout le monde ne connaît pas cette déchéance dans la vie pour venir à Christ. Il y a des gens qui n'ont pas besoin. Il y a des gens qui sont touchés par la parole. Et si vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, vous allez voir que les Thessaloniciens qui étaient idolâtres, rien qu'avec les discours de Paul, ils sont revenus de leur position. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est parce qu'ils avaient entendu les paroles de Paul. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être dans des situations comme ça. Rien que parfois entendre la parole de Dieu suffit. Et ce fils, dans sa détresse, c'est ce qui lui manquait. Il lui manquait la parole de son père. Vous imaginez, il s'est mis lui-même à part de la protection de son père. Il s'est mis lui-même en dehors de la grâce de son père. Et maintenant, il avait besoin d'entendre à nouveau la parole de son père. C'est exactement ce que veut Dieu dans nos vies. Dieu a tellement d'amour pour nous qu'il ne veut pas qu'on arrive à des situations comme ça. Mais il est prêt à nous accueillir. Il est prêt à nouveau à nous remettre dans la condition que nous étions avant. Mais il ne veut absolument pas que nous soyons comme ce fils cadet qui a tout quitté, qui s'est retrouvé dans une situation incroyable. On peut lire également Jérémie 31. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse, je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Voilà ce que Dieu demande dans nos vies. C'est que lorsque, même pour un chrétien, il ne faut pas penser que cette parabole s'adresse à des non-chrétiens. Cette parabole s'adresse à tout le monde. Ça peut arriver de se détourner. Lui, il était sous la grâce de son père. Il connaissait son père, il vivait avec son père, et pourtant il est parti de la présence de son père. Et quand on lit en Jérémie, après m'être détourné, j'éprouve du repentir. On se souvient. Et c'est pour ça, là, je voudrais dire aux parents qu'il y a un formidable espoir pour ceux dont les enfants se sont détournés de Dieu. À un moment donné, au milieu de la tempête, au milieu des pourceaux, ils vont penser aux situations agréables. Ils vont penser à toutes ces paroles qui leur ont été données et vont se retrouver dans la honte, dans la confusion, parce que l'œuvre de Dieu, c'est ça. L'œuvre de Dieu nous montre la pureté de sa parole, la pureté de sa présence dans nos cœurs par rapport à la salissure du monde, par rapport à tout ce qu'on à qui on s'est mis comme serviteur. Je me suis mis au service de qui? Donc c'est un formidable espoir pour les parents dont les enfants se sont détournés, dont les enfants ont pris une autre voie. C'est qu'à un moment donné, ils vont être dans une telle déchéance. Ça peut être une déchéance morale. Ici, c'est bien sûr une déchéance morale, mais ça peut être une déchéance spirituelle, où il y aura les questions qui vont commencer à venir. L'acharnement de Dieu qui va être au bord de leur cœur pour leur dire « reviens ». Donc lui, il est là au milieu de ses pourceaux, ayant faim, il rentre en lui-même. On voit cet acte de repentance. On vient de le lire en Jérémie. On reconnaît. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Vous imaginez ce jeune, il devait penser à la situation d'avant, à la douceur des mots de son père. Et il fallait cet instant où il est entré en lui-même. Il a reconnu sa faiblesse. Il a reconnu sa saleté. Il a reconnu son acte. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Il va lui dire trois choses. Et ces choses ne peuvent être dites qu'à partir du moment où on est sous la lumière de Dieu. Il lui dit trois choses. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Donc il reconnaît vraiment, quand on lit ces trois choses, la totalité de son acte. Il ne dit pas, je me suis éloigné parce que j'ai entendu le monde, j'ai cru que, non. Non, non, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Dieu, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme le pire des gens du monde. Et je suis persuadé qu'à ce moment-là, il avait une sincérité profonde dans son cœur. Et c'était le départ de quelque chose de nouveau. Parce que s'il n'avait pas eu cette repentance, s'il n'avait pas eu ce questionnement en lui, il n'aurait jamais eu ces paroles. Et c'est souvent ce qui manque dans la vie du chrétien. Dans la vie du chrétien, il faut ce départ, il faut cette repentance. Quand on commence à étudier, à méditer la parole de Dieu, on doit sentir la saleté qui est en nous. Vraiment sentir la saleté. Ce jeune a senti la saleté quand il a repensé à tout ce qu'il a vécu avec son père. Il a dit, quand j'étais avec mon père, j'avais de la nourriture, j'avais tout. C'est l'image de quand on est avec le Seigneur nous nourrit au travers de bonnes paroles. Il nous redresse, il nous donne une espérance de vie. Et quand on s'éloigne de là, ce qui arrive, on tombe dans des choses incroyables. Et des choses parfois qu'on n'aurait jamais voulu vivre. Et la vie est ainsi faite. Et le monde est une machine qui broie. Et malheureusement, il y a beaucoup de nos jeunes, et peut-être même beaucoup d'entre nous, qui en font les frais un jour ou l'autre. Mais l'espoir, c'est que le Seigneur donne toujours... Il garde toujours une petite place dans ce cœur qui est rempli d'immondices, rempli de débauches. Il y a toujours cette petite flamme, cette petite chose dans le cœur qui, à un moment donné, mais t'as connu autre chose. Regarde où tu es aujourd'hui. Tu as connu autre chose. Donc le Fils est entré en lui-même, il a dit ses paroles, il a dit « Demain je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Il l'a fait, il s'est levé, en ayant cette ferme intention de dire ces choses. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. J'aime bien cette parole, parce que ça montre vraiment l'amour de Dieu. Est-ce qu'on a vraiment la vision de l'amour de Dieu ? Au travers de « et fut ému de compassion ». On a vu avec les images du sel, les enfants, ce qui vivent dans certaines familles. Vous imaginez ce père, ce qu'il aurait pu faire avec son fils? Il aurait pu lui dire, dégage, j'ai plus rien à faire avec toi. Tu m'as dilapidé une partie de ma fortune. Tu as cru que tu étais meilleur, que toute ta vie allait être bien, ben maintenant tu te débrouilles avec ta vie. Il a été ému de compassion. Et le Seigneur est ému de compassion avec chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Parce qu'il a un amour profond, le même amour que le Père avait pour son Fils, quoi que l'on puisse faire. Dieu a toujours cet amour, parce qu'il sait que dans notre cœur, il y a cette repentance. Et lorsqu'on agit, lorsqu'on obéit, la suite, on va la lire. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. C'est le Père qui court vers le Fils et pas le Fils qui court vers le Père. C'est ça qui est magnifique. Je vous avais dit au mois de décembre dernier, on imagine le Père faisant des allers-retours devant la clôture tous les jours pour voir si son Fils ne revenait pas. Et un jour, il voit son Fils, il saute la clôture et il court vers son Fils. C'est magnifique. Et le Fils, ce qu'il avait résolu, le fait. « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Et là, il verbalise, comme j'ai dit tout à l'heure, il verbalise les choses qu'il a commises. On va voir en Romains, chapitre 10, verset 10. Donc je vais commencer au verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Le Fils a confessé son péché au Père. Il lui a répété ces trois choses. « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Mais le Père, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'écoute même pas ce que le Fils a à lui dire. Et vous savez pourquoi ? Parce que le Père l'a déjà pardonné. Le Père l'a déjà pardonné. Il a vu l'attitude du cœur de son Fils et il l'a déjà pardonné. Et ce que fait le Père dans la vie du Fils, c'est qu'il remet dans la même condition qu'au départ. Donc je vous avais expliqué quand j'avais fait ça, c'est qu'il revêt d'une nouvelle robe. Parce qu'on peut imaginer vivre au milieu du pourceau. Je ne vous dis pas l'état des habits, je ne vous dis pas comment ce jeune devait sentir. Et il y a cette image, vous avez entendu ce que je viens de vous dire, cette image que le Père le couvre tout de suite d'une robe. Il ne dit pas « va te laver, mets du parfum ». Il le couvre d'une robe. C'est ce que Dieu veut faire dans vos vies, vous couvrir de sa robe de justice qui couvre toutes les choses qu'on a faites. Toutes les choses, les péchés, tout ce qui était notre ancienne vie sont couvertes par cette robe. Et ce matin, je veux vous dire que vous êtes couverts par cette robe. Vous êtes couverts par cette robe. Il n'y a pas de question à se poser. Là, on s'adresse à quelqu'un qui s'est complètement détourné du Père. Complètement. Si vous êtes là ce matin, c'est qu'au moins vous êtes avec le Père. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes couvert par la robe de justice de Dieu. Il lui redonne l'anneau. Alors il faut savoir que l'anneau, souvent, c'était pour les grandes familles, c'était le sceau de la famille. Au Moyen-Âge, qu'on faisait, c'est qu'on prenait l'anneau, on cachetait les enveloppes, c'est-à-dire qu'on mettait un point de cire, on apposait l'anneau. Et cet anneau faisait foi, partout où allait la lettre, elle faisait foi. Dans la noblesse, on disait telle famille envoyée, crac, on regardait l'anneau, on connaissait l'anneau, il y avait les fleurs de lys, il y avait tout ce que vous voulez, et on reconnaissait la royauté, on reconnaissait la famille. Et lui, il lui redonne sa condition d'avant. Tu fais à nouveau partie de la famille. Je te remets dans la famille. Tu es à nouveau mon enfant. Et lui donne des souliers. Alors les souliers, il faut savoir qu'en ce temps-là, je vous l'avais expliqué également, c'est que c'était réservé qu'aux grandes familles. Les esclaves, les serviteurs, n'avaient pas de souliers, étaient pieds nus. Et lui, le père lui redonne des souliers. Il lui dit, à partir de maintenant, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de ce monde. Tu n'es plus esclave de toi-même. Je te rends ta dignité, mais je te libère. Tu n'es plus lié. Voilà ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui se tournent vers lui. Alors j'aimerais terminer par... J'avais un petit livret, j'avais ça sur le cœur, et Arlette m'a donné un petit feuillet qu'elle a depuis très longtemps. Et je vais vous lire ce qui est marqué, et j'ai trouvé ça vraiment super. Bien avant que nous vienne la pensée de retourner à Dieu, il nous attendait. Et lorsque nous venons à lui en confessant franchement nos péchés, son cœur divin est ému de compassion. Et il nous reçoit à bras ouverts. Avons-nous mérité un tel accueil? Certainement pas. Mais telle est la grâce immense de Dieu à l'égard d'un pécheur qui se repent. Il désire faire connaître son amour à celui qui a été marqué par le péché et ses conséquences, qui, en présence d'une telle grâce, pourrait encore hésiter à revenir à Dieu. En fin de compte, seul Dieu est capable de faire ces choses. Et si vous avez autour de vous des gens qui se sont éloignés de Dieu, des enfants, des parents, des époux, des épouses, le Seigneur le sait. Il attend qu'une chose. C'est que cette personne lui dise, voilà Seigneur, je me suis éloigné de toi. Peut-être que je suis plus digne d'être ton enfant. Peut-être que je suis bon à être comme les païens. Le Seigneur attend que ça, parce que dans son cœur, il a un tel amour que il va remettre ces gens dans leurs conditions de croyants, avec toutes les bénédictions, avec toutes les choses qui vont avec, parce que l'amour de Dieu est profond, parce que l'amour de Dieu dépasse tout ce qu'on peut penser. Si ce matin, peut-être, vous êtes dans cette situation, faites-le tout de suite. Priez, remettez à Dieu ce qui ne va pas dans vos vies, et je peux vous dire qu'il est déjà là, avec les yeux grands ouverts pour vous accueillir. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour tant d'amour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne juges pas, Seigneur. Nous avons peut-être cette faculté de juger les gens. Mais Seigneur, tu ne juges pas. Parce que tout est amour en toi, Seigneur. Merci Seigneur, parce que dès aujourd'hui encore, tu attends ceux qui se sont éloignés de toi. Et tu les reçois. Et tu ne fais aucune différence entre ceux qui sont restés fidèles et ceux qui sont... parti. Parce que tu nous connais chacun, Seigneur. Tu sais, Seigneur, que notre chair est faible. Mais Seigneur, ton amour est beaucoup plus grand que notre chair. Et tu nous restitues toutes choses. Seigneur, reçois ce matin les prières de ceux et celles qui sont dans cette situation. Que tu puisses les accueillir comme tu as accueilli ce fils perdu. Par le nom de Jésus. Amen.